L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info locale de Radio B. Bonjour Perrine.
Bonjour Elsa, bonjour à toutes et à tous.
Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Lucie Gouillou, responsable des publics à Brou, et de Cindy Manon, responsable du pôle médiation. Cindy nous entraîne à la suite d'une classe de CE2 dans la découverte du monde médiéval. Puis, ensemble, elles ont évoqué leur métier et les évolutions de l'offre culturelle du monument depuis 2014.
On retrouve leur interview et quelques réponses des enfants tout de suite après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves.
Nouvelle édition de la Semaine Bleue.
La semaine du 30 septembre au 6 octobre est dédiée aux personnes de plus de 60 ans. Un programme d'animation leur est proposé par le CLIC, ou Centre local d'information et de coordination gérontologique, dans tout le département. Ciné-débat, cuisine, réflexologie ou sport, découvrez les ateliers proposés près de chez vous sur le site 1.fr. Certaines activités continuent jusqu'à mi-octobre.
Radio B, les bonnes ondes.
Terre de vivre ensemble.
Les conseillers départementaux ont voté à l'unanimité le plan handicap 2024-2029. C'est le deuxième à être mis en place dans l'Ain. Un budget de 73,4 millions d'euros sera alloué aux aménagements nécessaires aux besoins des personnes en situation de handicap, aussi bien dans l'habitat, la santé, l'insertion professionnelle, l'enfance-jeunesse et la culture. Selon Jean Deguerry, ce nouveau plan handicap a demandé un important travail de concertation pour identifier les besoins des personnes handicapées. Son élaboration a impliqué les acteurs institutionnels et associatifs, les usagers et les proches aidants. Vous écoutez L'un dans l'autre,
le mag d'info locale
sur Radio B.
Hommage vidéo, projection documentaire avant démolition.
Samedi 5 octobre à 20h sur la place des Arcades à Bélignat, une projection documentaire est proposée à toutes et tous avant la démolition du bâtiment du quartier du Pré des Saules. Ce quartier était sorti de terre dans les années 70 au moment de l'expansion industrielle de la plasturgie. Le film documentaire a été réalisé par les habitantes et habitants du quartier grâce à la société de production Label Vie d'Ange. Il s'agit de mettre en lumière les histoires de mixité culturelle, d'immigration et aussi le quartier. La projection mêle art, petite et grande histoire.
Radio B, les bonnes ondes.
Semaine d'information sur la santé mentale 2024.
Du 7 au 20 octobre 2024 aura lieu la 35e édition de l'événement et elle est centrée sur le mouvement pour la santé mentale. Selon l'OMS, toute activité qui met en mouvement compte. Elle améliore les apprentissages et le bien-être. Elle renforce l'estime de soi, le sentiment d'auto-efficacité. L'activité physique interrompt aussi le fil des pensées négatives. Une trentaine d'événements est proposée dans l'Ain. L'ouverture de cette semaine thématique propose par exemple d'enfiler vos baskets pour découvrir des lieux atypiques de la ville de Bourg-en-Bresse, lundi 7 octobre à 13h30 à l'hôtel Marron de Meillonnat. La soirée de clôture proposera quant à elle tout un après-midi de découverte pour lâcher prise grâce au sport. Rendez-vous samedi 19 octobre de 14h à 17h au centre sportif Boost à Hauteville.
Le programme complet est disponible sur santé-mental-1.
L'un dans l'autre, l'interview.
Comme annoncé en début d'émission, on écoute Cindy Manon, responsable du pôle médiation au monastère royal de Brou. Elle nous explique son parcours et comment sont construits les programmes proposés, notamment aux écoles.
Nous sommes au monastère royal de Brou, monument bien connu des Indinoises et Indinois, pour vous parler de l'offre de médiation du monument. Pour rappel, il avait reçu la distinction du monument préféré des Français il y a maintenant 10 ans par l'intermédiaire d'un programme télévisé de France 2. Nous sommes avec Cindy Manon, responsable du pôle animation, et Lucie Gouillou, responsable des publics au sein de l'établissement. Bonjour.
Bonjour.
Alors Cindy Manon, vous êtes formée en histoire et en histoire de l'art, vous êtes médiatrice culturelle mais aussi conteuse. Vous voulez bien vous présenter un peu plus en détail à nos auditeurs et nos auditrices ?
Oui, tout à fait. Donc effectivement, dans mon parcours, j'ai fait des études d'histoire et d'histoire de l'art à Lyon. Et ensuite, j'ai commencé à me former plutôt sur le terrain en médiation culturelle. Donc, j'ai travaillé dans un musée de préhistoire à Nice. J'ai travaillé aussi au domaine des Planons, d'ailleurs. Et puis, j'ai bougé dans les musées à Bourges, au musée de Flandre à Cassel, hein, qui est dans le département du Nord, avant d'arriver ici il y a 4 ans. Et au cours de ce parcours, j'ai commencé à me former aussi à la technique du conte quand j'étais dans le Nord, ce qui m'a permis aussi de proposer des visites contées et d'écrire aussi certains contes. Donc, quand je suis arrivée à Brou, on m'a demandé d'ailleurs d'écrire certains contes et de préparer des visites contées. Donc, c'est dans le cadre des expositions, mais aussi pour Halloween, aussi, on va proposer une visite contée. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la princesse qui a fait construire ici ? Vas-y. Marguerite, est-ce que vous vous souvenez son nom en entier ?
Marguerite d'Autriche.
Oui, Marguerite d'Autriche, bravo. Elle n'est pas née en Autriche, hein, Marguerite, malgré son nom. Elle est née à Bruxelles. Est-ce qu'il y en a qui savent où c'est, Bruxelles ?
Tu sais ? C'est la capitale de...
Ah, ça va te revenir.
De la capitale de la Belgique.
Oui, c'est en Belgique, effectivement. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, hein. Ça s'appelait les Flandres, et ça comprenait la Belgique, effectivement, et les Pays-Bas. Alors, notre Marguerite, elle est venue par ici.
En quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce que c'est une visite contée ?
Donc une visite contée, en fait, je choisis des œuvres, donc la plupart du temps des tableaux, et avec le public, donc je les transporte à l'intérieur pour leur faire vivre l'histoire. Donc ça peut être, par exemple, pour Dante et Virgile, vraiment l'histoire de la Divine Comédie, ou alors parfois j'invente des histoires en lien avec les personnages, comme sur, par exemple, le tableau de Gustave Doré, Le paysage d'Écosse, où je raconte l'histoire de la bergère qui rencontre des fantômes, pour Halloween en tout cas.
Et où puisez-vous votre inspiration pour créer ?
Alors, beaucoup dans mes lectures, donc forcément j'ai tout un répertoire de contes, alors des contes un petit peu plus classiques, mais ça peut être par exemple de la littérature, je m'inspire du portrait de Dorian Gray par exemple, pour raconter une histoire à partir d'un portrait qui devient vivant par exemple. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup de lectures, parfois dans les films aussi, les albums pour jeunesse, pour les enfants, qui m'inspirent aussi beaucoup. Donc c'est tout un mélange qui permet de créer quelque chose de nouveau.
L'inspiration est partout et tout le temps finalement, quoi.
Oui, exactement. Et alors, moi, je suis une fan de la mythologie, donc forcément ça m'inspire aussi beaucoup. Et voilà, ça se sent aussi parfois dans les histoires. Donc on est au 21e siècle. On remonte un peu en arrière, au 20e siècle. Moi, je suis née au 20e siècle, mais plutôt à la fin du 20e siècle, 1980, puisque vous avez la date maintenant. Effectivement, 20e siècle, c'est l'époque où on va inventer plein de choses. La télévision, on va inventer l'ordinateur, on va inventer le téléphone portable aussi. Ça, c'est plutôt mon époque. Internet aussi, ouais, on en invente des choses au 20e siècle. Donc, on a même marché sur la Lune. Donc là, on est en 1969.
Donc là, on a suivi une animation avec une classe de CE2 sur le thème de la vie au Moyen-Âge. C'est un nouveau thème proposé par le monastère cette année, hein, si je ne me trompe pas. Comment sont choisies ces thématiques et comment sont construites les différentes séances ?
Alors, pour les thématiques, en fait, généralement, on cherche effectivement par rapport à tout le contenu qu'il peut y avoir aussi bien dans le monument que dans le musée. Et puis, on regarde aussi par rapport aux attentes des enseignants, notamment par rapport au programme. Donc là, on s'est dit qu'effectivement, la vie à la fin du Moyen-Âge, on parle de l'époque finalement où a vécu Marguerite d'Autriche. Et c'est une époque qu'ils étudient effectivement en primaire, ils l'étudient à nouveau en cinquième au collège. Donc, c'était quelque chose en fait qui permettait de faire du lien vraiment entre le programme scolaire, le monument et les élèves aussi pour qu'ils s'approprient leur patrimoine. Donc là, ça avait tout son sens. Donc cette année, on propose 2 nouvelles animations pour les scolaires, donc la vie à la fin du Moyen-Âge et une autre qui s'appelle Mythologie et Expression. Donc on retrouve mon petit dada, où là c'est effectivement plutôt pour les CM2, les 6e, où ils travaillent la mythologie effectivement en classe, et on va s'inspirer des tableaux où on a des scènes qui représentent des histoires mythologiques, et ils vont travailler aussi l'oralité. Donc je suis en train d'écrire les textes de façon à ce qu'ils puissent les lire et les jouer un petit peu devant les tableaux aussi.
Vous verrez peut-être pas tout de suite.
Ah ben voilà, retenez les petits mots de vocabulaire que je vous donne. Alors, donc notre époque, effectivement, Marguerite, vous avez vu, elle est là. On est à la fin du Moyen-Âge et au tout début des temps modernes. D'accord ? On est vraiment à la jonction. Donc aujourd'hui, ce qu'on va un peu étudier, c'est comment on vivait justement à la fin du Moyen-Âge. D'accord ? Pour vous donner un ordre d'idée. Donc comment on s'organisait dans le temps ? Donc généralement, les nouvelles animations, elles sont travaillées avec notre professeur relais, qui est Vinciane Brunet, hein, qui est professeure d'histoire au collège. Et c'est elle qui me permet vraiment de faire le lien avec les programmes et de me dire, là, ils veulent vraiment travailler cet aspect-là. Ça serait intéressant de pouvoir le développer aussi, nous, dans notre visite. Donc c'est vraiment une co-construction et ça permet vraiment de faire ce lien avec les enseignants, qu'il y a vraiment quelque chose qui puisse leur resservir aussi après en classe.
Lucie Gouillou, responsable des publics au monastère royal de Brou, nous parle de son métier et de l'évolution de l'offre du monastère, notamment depuis son élection de monument préféré des Français en 2014. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec le slogan du monument « Brou, soyons fous ».
On l'écoute.
Lucie Gouillou, qu'est-ce que ça veut dire être responsable des publics au sein d'un établissement comme Brou ?
Alors, le service des publics regroupe en effet plusieurs pôles, mais on va dire qu'en une phrase, le but étant pour ce service d'accueillir dans les meilleures conditions qui soient l'ensemble des visiteurs dans le monument, qu'ils soient individuels, en groupe ou bien en public scolaire ou public spécifique. Donc le service des publics regroupe à la fois le pôle réservation-accueil, mais également l'ensemble des agents qui accueillent et surveillent les lieux, c'est-à-dire l'église et le musée principalement, et puis toute l'équipe de médiation dont Cindy est la responsable.
Brou propose une offre de médiation originale et adaptée donc à différents publics, donc des contes, des visites œnologiques et une offre intitulée Brou autrement. Alors qu'est-ce que c'est ?
L'idée en effet, c'est d'ouvrir un peu plus les portes de ce monastère royal de Brou pour qu'il soit accessible au plus grand nombre et surtout vivant, avec une programmation un petit peu audacieuse. On aime bien un petit peu les pas de côté ici à Brou. D'ailleurs, c'est notre credo, hein, c'est Brou, soyons fous depuis quelques années. Et ce Brou autrement, en fait, on l'a pensé à l'occasion du centenaire de l'installation du musée à Brou en 2022, où on a proposé une année entière de nouvelles activités, et notamment ce Brou autrement, c'est-à-dire de venir au musée et dans le monument pour y faire autre chose que de la visite et de la découverte historique, à savoir du chant, de la danse, du théâtre ou bien encore du yoga et de la méditation.
Oui, d'ailleurs, j'ai vu sur le site que c'est un bain sonore, une méditation sonore qui est complète. Donc, on peut dire que ça prend bien.
Tout à fait. C'est vrai que ces nouveautés et ces nouvelles façons de venir à Brou ont beaucoup de succès, puisque nous avions démarré avec le yoga l'année dernière. Cette année, on poursuit avec le yoga. Mais la nouveauté, ce sont ces méditations de bains sonores avec des bols tibétains et deux séances qui ont été prises d'assaut très rapidement. Donc, on pense qu'on pourra les réitérer l'année prochaine.
Et comment vous faites pour construire cette offre ? Vous prenez le pouls de la société ? Comment on fait pour s'adapter à avoir une animation qui marche aussi bien finalement ?
Je dirais que c'est un petit peu ce que vous disiez, le pouls en effet de la société, ce qui est proposé aussi par ailleurs, et puis bien sûr les occasions, les rencontres avec les artistes, avec les acteurs culturels du territoire. On monte nombre de projets en collaboration, que ce soit avec le réseau de lecture publique ou le centre psychothérapeutique de l'Ain ou bien encore le théâtre. Et à la faveur de toutes ces collaborations, ces rencontres, eh bien, on monte des projets et on a de nouvelles programmations d'artistes souvent très diversifiées, éclectiques et intéressantes.
Alors, est-ce que vous pensez que l'élection de Brou en tant que monument préféré des Français en 2014 a changé quelque chose à la création du programme d'animation ou peut-être aux attentes du public ?
Je pense en effet les deux, puisque depuis cette élection, il faut savoir que la fréquentation du monument a bondi, puisqu'on était à 75 000 visiteurs en 2014 et que nous sommes passés à plus de 115 000 visiteurs l'année suivante. Et puis maintenant, hein, on est aux alentours de 100 000 visiteurs par an. Donc, on a gagné nombre de visiteurs. Et du coup, c'est vrai que cette élection nous a permis aussi de retravailler la visibilité, la communication et notamment cette entrée plus audacieuse sur cette programmation qui, voilà, se veut éclectique et ouverte sur le territoire.
Cindy, Lucie, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous. Et c'est les moines, en fait. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour marquer le temps, en fait, qu'on entende bien les passages, notamment des heures, pour qu'on sache justement que l'heure changeait. Est-ce que vous savez ce qu'ils faisaient, les moines? Tu sais,
ils regardaient par fenêtre, par exemple, si c'était soir.
Ouais. Et comment ils font pour que tout le monde sache, en fait, qu'il y a une heure qui a changé? Ils tirent sur quelque chose.
Une grosse cloche.
Voilà, en fait, ils vont sonner les cloches. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la petite comptine Frère Jacques?
Ouais.
Vas-y, tu peux me la chanter.
Frère Jacques, dormez-vous, soleil et matin, soleil et matin,
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa et merci Hortense à la technique.
Merci Perrine. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle édition du magazine qui vous engage.
Belle semaine à toutes et à tous à l'écoute de Radio B. L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine.
Elsa.